Aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est un jour de liesse.
On peut le dire, on peut le dire.
Ah, critérium gagné. Alors, comment on y arrive à gagner ?
CO2, mon amour.
Ah bah, c'est énormément de travail, hein. C'est des mois de travail. Hein. Là, tous les matins, lui, à 8h, il est sur son vélo. Hein.
Pas trop dur, quand même.
Non, ça va. Il manquerait plus qu'il se plaigne, lui. Tous les matins, à 8h, sur son vélo, il fait Hasbrook-Dakar 4 fois dans la journée, 300 km. Hein. Il faut que ça aille. Ouais. N'importe quel temps, il est sur son vélo. Hein.
L'alimentation, c'est important.
Très saine, hein, très saine. Beaucoup de légumes, énormément de légumes. Des légumes.
Avec Denis Chessou.
Des fruits aussi, hein, puis on lui donne des petites pilules énergétiques, hein, avec l'espartise. Hein, il aime bien l'espartise,
il aime bien
ce matin. Il aime bien ça.
Sur France Inter.
Oui, bah nous, on va le faire sans petite pilule. Hein. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui va prendre son temps, parce que lorsqu'on est à vélo, on prend son temps. On va en parler donc avec nos invités d'ici quelques instants. Nous sommes à la technique avec Anne-Laure Cochet et Antoine Théboul dans cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Assisté de Marion Philippe et notre stagiaire Alice Michaud, c'est Xavier Bestugia qui a arrêté les stabilisateurs aussi sur son vélo et qui réalise l'émission. Bon, ça va commencer, ça n'a pas de rapport, ça a commencé par un petit coup de gueule quand même là, oui. Loup, lynx, ours, homme, quatre grands prédateurs. Et si on fait le bilan des dégâts sur la vie humaine et sur la biodiversité en général, bah, il n'est pas sûr que le quatrième ne soit pas, et de loin, le plus coupable. Aucun ours au monde, aussi brutal que puisse être la bête, hein, sûrement par manque d'éducation, ne saurait attirer de petites filles dans son boudoir pour satisfaire ses plus bas instincts. Aucun loup ne se fait exploser au cœur d'un marché. Aucun lynx n'invente de bombes chimiques ni ne détourne vos données personnelles sur la toile. Donc question bestialité, ces animaux-là n'ont rien à nous apprendre et c'est nous qui leur donnons des leçons. Qu'ont-ils à voir là-dedans ? Fait remarquer à la justice qui constate qu'il y a rarement des ours, des loups sur les bancs de la correctionnelle. Alors on va relâcher en fait deux oursonnes dans le Béarn à l'automne prochain. Et la peur doit toujours régner dans les campagnes, une peur orchestrée, savamment mise en scène et parfaitement entretenue par mille voix intéressées d'intérêt particulier et aussi organes de presse avides de lecteurs. Alors si les éleveurs sont des acteurs indispensables en montagne, bien sûr, l'agriculture n'est pas le seul enjeu. Donc non, les éleveurs n'ont pas le droit de vie et de mort sur l'ours comme ils l'ont quasiment revendiqué lors d'une récente manifestation. Il s'agissait bien sûr de certains éleveurs et pas de tous. Allons donc, la terreur est de retour dans les estives. Des dégâts ? Ah bah oui, bien sûr, il y en a une vaguelette quand même dans l'océan de brebis, car sur 570 000 ovins, donc dans cette partie des Pyrénées, 20 000 disparaissent pour au moins une dizaine de causes tout à fait différentes, dont les chiens errants qui sont eux très très peu médiatiques. Ça n'intéresse pas grand-chose. L'ours, oui, depuis 10 ans, il a fait 250 dégâts. 460 en 2017, ça s'était lié à un dérochement de brebis qui était non gardé en Ariège. Alors vas-y Coco, tu ouvres hein, sur les éleveurs en colère. Même si certains sont condamnés et se comportent comme des voyous, et comme en Ariège, refusent de prendre les mesures proposées, ce qui serait accepter la présence de l'ours. Allez, vas-y, fais le buzz. Certains éleveurs rêvent d'un monde entièrement consacré à des moutons. Comme le producteur de céréales rêve d'hectares de maïs à l'infini. Et le garagiste de parking géant à perte de vue. Mais la planète que nous habitons encore un peu, eh ben nous devons la partager avec tous les êtres vivants qui en font la richesse. Et cette idée-là est rétrograde, insupportable à certains hommes. Vivre et laisser vivre tous les autres dans une harmonie, jusqu'à présent, eh bien seuls les animaux ont su l'établir, en s'équilibrant d'ailleurs, en s'éliminant entre eux. Nous, on pourra toujours tuer, éliminer, mais créer, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est peut-être là un peu notre part, entre guillemets, de divin. Mais heureusement, il y a quand même d'autres hommes qui restent conscients de l'intérêt de tous. Peut-être ceux, d'ailleurs, qui voient dans un grand arbre autre chose que le nombre de planches, de stères qu'ils pourront en tirer. Ceux-là sont aussi éleveurs, d'ailleurs, et comprennent que la nature est un tout. Que l'ours, le lynx et le loup doivent et peuvent prendre leur part de gâteau. Et on peut aussi, bien sûr, s'en défendre. Tout est question d'équilibre. Il se trouve même que on a pris peut-être trop l'habitude de se coucher devant ceux qui parlent haut et fort pour imposer leurs lois, mais d'autres chansons existent, les enfants. Pom, 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 allons sur la terre et dites bonjour à Grounours. Alors une actualité avec Pascal Canfin qui est le directeur du WWF, ça vous le savez, vous l'avez entendu, la France creuse sa dette écologique, 5 mai c'est le jour du dépassement. Cette ONG a travaillé avec Global Footprint Network et alors le principe de cette dette, rappelez-nous s'il vous plaît Pascal Canfin.
Ça veut dire que depuis aujourd'hui, le samedi 5 mai, si toute l'humanité vivait comme nous, Français, eh bien nous aurions dépassé le seuil de soutenabilité, à savoir que nous entrions dans une zone où nous mangeons plus de poissons que les océans peuvent en produire, nous consommons plus de bois et des produits issus des forêts que les forêts ne peuvent se régénérer, nous émettons plus de CO2 que l'atmosphère ne peut en capter, etc., etc. Donc on entre dans la zone où nous commençons à creuser notre déficit écologique et où nous mangeons le capital naturel qui nous est donné par la planète.
Au lieu de manger les intérêts, on bouffe le capital.
Chacun sait bien que quand on mange le capital année après année, à la fin, ça s'appelle la faillite. Et nous sommes progressivement sur le chemin de la faillite écologique. Depuis 3 ans, l'empreinte écologique des Français repart à la hausse. C'est un très grand paradoxe, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Après avoir signé l'accord de Paris sur le climat, eh bien, nous continuons à dégrader notre empreinte écologique plus que nous ne le faisions en 2014, 2013 et les années précédentes. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole ont baissé, ce qui fait que la consommation de carburant a augmenté, à la fois pour les personnes et pour les marchandises, et donc notre empreinte écologique globale, malheureusement, s'est dégradée. Pourtant, et nous insistons beaucoup là-dessus au WWF et vous le faites aussi, mais c'est les solutions existent. Dès aujourd'hui, arrêter de consommer des produits qui ne sont pas de saison, de manger moins de viande. Vous savez qu'un steak de 250 grammes, c'est 4000 litres d'eau, c'est l'équivalent de 3 mois de douche. Donc vous voyez que en divisant par 2 cette consommation de viande, par exemple, on réduit spectaculairement son empreinte écologique.
Alors là, Pascal Canfin, on parle évidemment de nos actions, on va dire, individuelles qui sont indispensables. Mais il y a aussi quand même ce grand bateau qui est la finance et qu'il faudrait peut-être aussi quand même sacrément réorienter. Et puis qu'on ait aussi, de la part de nos différents États et du nôtre en particulier, peut-être une volonté encore plus affirmée.
Bien sûr, et il faut surtout pas opposer les échelles d'action et les acteurs. Il faut à la fois agir au niveau local, au niveau national, européen et international. Il faut avoir une politique du « et », comme dit Edgar Morin, et pas une politique du « ou ». Parce que vu la taille des défis, il faut additionner les énergies et non pas les soustraire. Les solutions, elles sont là. On sait produire de l'agriculture biologique. On sait produire des produits de saison et de qualité à côté des villes. On sait produire des logements à énergie positive. On sait produire des vélos électriques. On sait faire tout ça. Et donc, il faut que les politiques publiques encouragent les solutions qui sont d'ores et déjà là, disponibles, et permettent de changer d'échelle. Malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, on n'est pas engagé dans un processus de rupture par rapport aux logiques du passé, mais plutôt, éventuellement, dans le meilleur des cas, une logique un peu cosmétique d'aménagement.
C'est-à-dire qu'il faudrait être beaucoup plus directif, Pascal Canfin, parce que là, actuellement, on est très incitatif, c'est-à-dire qu'on ne contrarie pas quand même des intérêts majeurs, qui sont les intérêts financiers aujourd'hui. On n'arrête pas de nous dire la dette, mais la dette écologique, on en parle très peu.
Effectivement, le parallèle avec la dette financière, il est très instructif. Chacun sait bien que dans notre vie quotidienne, si année après année, on consomme plus que ce qu'on gagne, eh bien à la fin, ça s'appelle le dépôt de bilan, la faillite ou le surendettement. Et c'est exactement ce qu'on fait pour la planète, sauf que la planète n'est pas un banquier, et donc la planète, elle ne peut pas, à un moment donné, siffler la fin de la récréation et dire là, vous arrêtez d'émettre du CO2, vous arrêtez de couper les forêts, vous arrêtez de surconsommer les poissons. Et donc on continue, on est un peu comme des enfants sans parents. On n'a pas les parents qui nous disent maintenant, deux bonbons, ça suffit, il n'y aura pas de troisième, il est 8h, il faut aller au lit. La nature fonctionne pas comme ça. Et donc la question fondamentale que pose cette étude et la notion de dette écologique, c'est au fond, est-ce que on est capable, nous-mêmes, en tant qu'espèce humaine, d'être suffisamment sages individuellement et collectivement pour se poser cette limite à nous-mêmes ? Et c'est un problème politique fondamental, un problème moral, éthique. Et j'invite chacun à réfléchir à ce sujet et ensuite à agir.
Être capable de mesure, de décroissance, de sobriété, c'est pas encore gagné. Allez, vive la vie à crédit, youpi. Dans quelques instants, on enfourche notre vélo, on parle de politique vélo. Ouais, ouais, en ville. Bien, cette petite marche choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice sur France Inter, bah, c'était Étienne Dao, ça s'appelait Le Jardin.
Quand tu causes vélo, c'est comme si moi je causais élevage de poule, tu connais que dalle. Alors
bah, j'ai tout de même vu passer le Tour de France pas plus tard que cet été en 10 heures, à part ça.
CO2, mon amour.
Oui, c'est bien ce que je dis, tu connais que dalle, tu confonds tout.
T'as jamais entendu parler de monsieur Christophe, le vieux Gaulois. Et je ne parle pas d'Henri.
Henri qui?
Henri qui, tu demandes de l'avenu. Mais Henri Pélissier, monsieur. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de dérailleur. On retournait sa roue pour le grimper, votre isoire.
Écoute, mon vieux, on causerait politique que tu te paumes dans les étiquettes, on l'admettrait. Mais le sport, c'est un truc propre. C'est pourquoi quand tu compares les sprinters et les grimpeurs, les pisteurs et les routiers, bah, tu mélanges un peu les pédales.
Tiens, c'est comme si t'additionnais les oiseaux avec les lévriers. Faut pas avoir été beaucoup à l'école, non?
Avec Denis Chessou.
Ah bah oui, là on se calme parce qu'on va faire du vélo en ville, on va quitter le Tour de France et on va remercier quand même avec gratitude le baron allemand Karl Drey qui l'été 1817 à Mannheim sur le Rhin parcourt sur sa Laufmaschine en bois la distance de 14 km 400. La Drésienne, ancêtre du vélo, était née. Alors, en ce moment, donc en train c'est un peu moyen, en avion Air France c'est pas terrible non plus. Alors à pied c'est bien, à cheval aussi, mais en vélo c'est quand même pas mal non plus. Le vélo en ville, où en sommes-nous? Alors oui, les Français se remettent à enfourcher leur bicyclette. Économie, plaisir, bien-être, santé, écologie, cohérence personnelle, c'est un petit peu tout cela. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que nous sommes en fait à quelques jours de la présentation du projet de loi d'orientation des mobilités en Conseil des ministres, dans lequel... Donc, on doit voir, on espère avoir des mesures vélo un peu ambitieuses, hein, qui constitueraient la colonne vertébrale d'un vrai plan national vélo, si Bercy ne rabote pas trop de choses au passage. Elisabeth Borne, secrétaire d'État donc au transport, dit un plan vélo sincère, structuré et financé est nécessaire. On va en parler avec vous, Olivier Schneider, qui est le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Et puis, depuis France Bleu Rouen, avec vous, Véronique Michaud, qui est la secrétaire générale de l'Association des clubs et des territoires cyclables. Alors, votre réaction, on va dire, par rapport à ce plan à venir, Véronique.
C'est vrai que jusqu'à présent, en matière notamment de financement des infrastructures, de la voirie, du stationnement, c'était les collectivités locales qui étaient seules à la manœuvre, hein, qui en supportaient 100%. Si on veut aujourd'hui accélérer les dynamiques, si on veut amplifier ça, accélérer en fait ce qui se passe actuellement dans notre pays, il faut absolument une stratégie nationale. Et jusqu'à présent, on a eu des plans, parce qu'en France, on est quand même assez fort pour, notamment depuis 10 ans, faire des plans nationaux. On a eu des plans vélos, mais qui étaient peut-être sincère, mais en tout cas jamais financé.
Oui, jamais chiffré véritablement, c'est ça, voilà.
Voilà. Et donc, quand les objectifs sont un peu évanescents, que les montants sont pas là, Bah, la trajectoire, elle n'est pas vraiment fixée. Donc aujourd'hui, cette ambition, effectivement...
L'ambition, c'est que 100% du territoire doit être couvert par des solutions de mobilité autres que la voiture.
Voilà, et ça nous porte vraiment. Enfin, en plus, je pense qu'il faut absolument que ce qui se passe dans nos villes soit généralisé et que le vélo, qui est une vraie solution de mobilité, soit diffusé en fait sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 25% du territoire national qu'on appelle les fameuses zones blanches qui sont couvertes par aucune solution de mobilité autre que la voiture individuelle. Donc autant dire que les gens qui n'ont pas accès à la voiture individuelle, qui n'en ont pas, n'ont pas de solution de mobilité, sont ce qu'on appelle la précarité mobilité, sont amenés à refuser des emplois.
Ce que vous venez de dire, c'est qu'on a effectivement ce qu'on appelle la précarité mobilité, quand même, en plus des autres précarités.
Oui, voilà. Ouais. Et souvent, ça s'additionne. Hein. C'est quand même les personnes les plus vulnérables qui additionnent toutes les formes de précarité énergétique, mobilité, ouais, etc. Sûr. Donc l'ambition de la ministre des Transports aujourd'hui d'engager un vrai plan vélo sincère, financé, avec un calendrier, et puis qui sera évalué, on regardera comment ça se passe, c'est accompagner ce qui se passe déjà dans les collectivités qui sont à la manœuvre, hein, et notamment dans les villes, quelle que soit leur taille, et le diffuser justement avec cet objectif de couvrir 100% du territoire.
Alors la part du vélo, on va dire aujourd'hui domicile-travail, en France, c'est 3%, hein, c'est quand même pas énorme, mais ça monte quand même doucement. Alors Olivier Schneider, bonjour à vous Olivier.
Bonjour Dave.
Président donc, de la FUB, donc c'était, alors vous regroupez vous combien d'associations en France? Près de 300 je crois à peu près. Donc,
En comptant les antennes, oui, 300 associations voilà, locales.
Donc, ça fait 30 000 quand même adhérents. Et vous avez sorti donc un baromètre des villes cyclables. 113 000 personnes ont répondu en 2 mois, ce qui veut dire que c'est quand même un très très gros succès cette affaire-là. Donc il y avait tout un questionnaire sur le vélo et on sent bien qu'il y a un besoin de vélo.
Déjà, les 113 000 réponses s'inséraient dans le cadre des assises de la mobilité. Et donc, il est important de dire que c'était la contribution citoyenne la plus massive à ces assises, qui étaient générales, qui étaient sur toute la mobilité de France, pas uniquement sur le vélo. Et donc, la massivité de cette réponse, on a eu 4 fois plus de réponses que ce qu'on revendique comme adhérents. Ça montre que les Françaises et les Français sont prêtes et prêts à pédaler, mais à condition qu'on leur fournisse un système vélo crédible face au système voiture, tout voiture.
Alors le système vélo, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en général, il y a quand même 2 points qui sont très forts. C'est à la fois la sécurité, ça va être aussi le vol. Alors la sécurité, ça veut dire ce qu'on appelle des sites propres, c'est-à-dire soit des bandes ou plutôt des pistes cyclables.
Oui, alors il y a 2 aspects dans la sécurité. Il y a la sécurité du cycliste et il y a la sécurité du vélo. Dans notre enquête, 80% des répondants et 85% des répondantes nous disent que c'est important pour elles et pour eux d'être séparés de la circulation. Oui. Donc il y a vraiment une attente en piste cyclable, en site propre. Et 92% nous disent qu'ils ont peur pour le vol de leur vélo. Donc ça montre qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Et après, quand on parle système, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait les services associés. Si on peut combiner de manière facile le vélo avec d'autres modes de transport, par exemple en embarquant des vélos dans les trains ou les cars ou en les stationnant de manière sécurisée dans les gares ou dans ce qu'on appelle plus largement les pôles d'échange, là, tout à coup, on crée une alternative à l'automobile et donc ces personnes sortent d'un choix binaire entre la voiture individuelle et l'immobilité.
Alors, on se rend bien compte aussi que donc il y a des villes qui sont plus en avance que d'autres parce qu'il y a une véritable volonté politique. Et puis, on va donner un petit coup d'éclairage sur une ville qui se trouve donc dans les Hauts-de-Seine. Nous avons le parc de Sceaux et dans le parc de Sceaux, vous avez Sceaux. Et nous avons en ligne son premier magistrat, c'est voir Philippe Laurent, qui est aussi le secrétaire général de l'Association des maires de France. Mais là, évidemment, c'est quelqu'un qui, dans cette ville de plus de 20 000 habitants, qui est aussi une ville assez jeune parce qu'il y a beaucoup d'universités, eh bien, la politique vélo été mise en avant. Bonjour Philippe Laurent.
Bonjour.
Alors Philippe Laurent, donc comment ça s'est passé pour vous? En fait, pratiquement tout Sceaux, c'est une ville 30, hein, autrement dit, on ne dépasse pas le 30 à l'heure. Et 90% de la voirie, eh bien, vous avez la possibilité de faire de la bicyclette chez vous.
Quand on a voulu transformer toute la ville en zone 30, ça fait une quinzaine d'années hein, que c'est le cas, donc c'est très longtemps. Et lorsqu'on a voulu également mettre en place, par exemple, le contresens cyclable ou des choses comme ça, ça s'est fait assez facilement parce qu'il y avait déjà une circulation très apaisée. On n'a jamais eu de problème particulier en matière d'accidentologie parce que nous avions pris ces initiatives-là donc assez tôt. Quoi.
Philippe Laurent, qu'est-ce qui a véritablement changé à Sceaux depuis que l'on fait du vélo?
Oui, je pense qu'il y a une ambiance qui a un peu changé. On a eu la chance aussi d'avoir la coulée verte du sud parisien qui traverse la ville et qui a donc provoqué l'envie d'un certain nombre de personnes d'abord de se promener en vélo, mais aussi d'utiliser le vélo comme un outil de déplacement vraiment avec notamment en liaison avec Paris. On a aujourd'hui, je pense, un certain nombre de salariés qui vont en vélo à Paris. Pas forcément tous les jours, parce qu'il y a des conditions climatiques, etc., mais qui vont souvent en vélo à Paris pour y travailler, simplement, parce que nous avons cette liaison qui est totalement sécurisée, qui est cette fameuse coulée verte, qui arrive pratiquement jusqu'à Montparnasse.
Quelle serait la demande que vous avez maintenant, aujourd'hui, pour amplifier ce phénomène, que ce soit donc vous, avec les communes voisines, bon, Bourg-la-Reine a commencé à s'y mettre, alors j'ai vu à l'Aille-les-Roses, mais c'est vrai qu'à l'Aille-les-Roses, ils ont mis aussi beaucoup des bandes cyclables sur les trottoirs, donc on a un peu l'impression que c'est un compromis, ils sont pas vraiment décidés, vous voyez, donc ils ont pas empiété sur la voirie non plus, sur l'automobile, mais qu'est-ce qu'il faudrait?
Pour nous, la question se pose pas tant en termes d'infrastructures lourdes qu'en termes de pédagogie, d'acceptabilité des automobilistes, de la présence du vélo, de formation aussi et de pédagogie en direction des cyclistes eux-mêmes, parce que là aussi, ils ont à avoir un comportement qui soit compatible. Hein. Et puis ensuite, en termes de service aux cyclistes, hein, c'est-à-dire notamment atelier de réparation. Donc ça, on a plein d'ateliers fixes parce qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires d'activité. On en avait un qui a fermé il y a déjà quelques années. Mais maintenant, nous faisons venir donc de manière régulière des ateliers mobiles qui viennent s'installer pendant une demi-journée ou une journée donc dans le centre-ville. Et ça marche très, très bien. Et puis, le stationnement sécurisé. Ça, c'est un point tout à fait majeur sur lequel on travaille d'arrache-pied. Et notamment pour les vélos assistance électrique qui se développent, pour lequel donc nous versons donc un financement, une subvention en complément de ce que fait l'État maintenant.
Hein. Combien vous versez, par exemple, à Sceaux pour l'achat d'un vélo électrique?
Alors là, on est sur... Parce qu'il y a l'aide de l'État qui existe, mais qui est conditionnée au revenu.
Ah bah, elle est sacrément conditionnée, oui.
Ouais, on ne conditionne pas au revenu parce que c'est trop compliqué. Puis bon. Et donc, on est sur une participation aujourd'hui sur 20% du prix d'achat du vélo, avec un maximum à 100 euros.
On va poursuivre donc ce voyage avec d'autres villes cyclables, peut-être. Sceaux, donc, on fait partie de ce club des villes cyclables de France. Puis on a d'autres sujets donc à aborder. Tout va bien, c'est parfait. Allez, on continue.
J'ai vu tant de mers, tant de rivages, tant de ciels, de paysages. J'ai vu tant d'escales et tant de ports. J'ai pu me chauffer au creux des îles, me cacher au fond des villes. J'ai pu marcher sur des sables d'or. J'ai vu des matins de joie, de chagrin, de rire et d'envie, de peine et de bonheur dans ma vie. J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur me murmure qu'il y a tant de rêves à vivre encore.
Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui chantait. Donc, en tout cas, la chanson s'appelait j'ai vu.
Et nous, qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, on voit des vélos un petit peu partout en ville.
Oui, en ce qui concerne le Tour de France, une bonne nouvelle. Je crois que Gérard Fagnon est toujours en tête.
CO2, mon amour.
Il a le maillot jaune depuis deux étapes. Gérard, on t'adore, on t'aime. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu dire bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2, Gérard?
Bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2.
Gérard, peux-tu te rapprocher, s'il te plaît?
Mais non, je peux pas, vous me faites perdre ma moyenne, poussez-vous.
Gérard,
il est tombé.
Gérard s'est littéralement gonflé dans le caniveau, je ne comprends pas.
Gérard, il est tombé.
Je sais, c'est dommage.
Avec Denis Chessou.
C'est bien triste de terminer cette édition là-dessus, surtout que le Tour cycliste a eu beaucoup de problèmes cette année.
Ah oui, encore aujourd'hui, je crois que des agriculteurs mécontents avaient décidé d'interrompre l'étape en barrant le passage avec un troupeau de porcs.
C'est exact, Robert, ce qui nous permet de conclure. Vive le porc sur Antenne 2.
Sur France Inter.
Oui, mais nous, on est très loin de la compétition. On est pour des villes apaisées. On est avec le vélo moyen de transport, moyen de locomotion, ce qui n'empêche absolument pas le loisir. D'ailleurs, vous allez le comprendre tout à l'heure. Et donc, nous sommes à la fois avec Véronique Michaud, nous sommes avec Olivier Schneider. Donc, pour parler de ce merveilleux engin, qui d'ailleurs a été une époque délicieusement ringard, dans les années, on va dire, 50, on avait le vélo prolo, après c'était le vélo bobo, bon, et maintenant tout le monde quand même s'en empare, et d'ailleurs, il faut quand même bien le dire aussi, avec une formidable flamboyance du vélo électrique, Véronique Michaud, parce que ça a boosté beaucoup de personnes, des personnes qui un peu plus âgées, des gens qui se sont remis aussi au vélo, enfin, ça, on le voit, quoi, il y a un grand boom avec le vélo électrique, hein.
Oui, il s'en est vendu l'an passé 255 000. Donc c'est vraiment un élément de... Vraiment, c'est un attrait très fort.
Je crois qu'il s'en est même vendu plus que des deux roues motorisées. Hein.
Oui, oui, beaucoup plus que de cyclo et à peu près équivalent cyclomoteur et moto. Donc on a une évolution qui est vraiment intéressante. Et puis 8 fois plus que de voitures électriques, hein, au passage aussi. Donc les gens identifient bien dans ce vélo essence électrique une vraie solution de mobilité. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pour ça qu'on est favorable à ce qu'il soit aidé au moins pendant quelques années, donc par les collectivités et par l'État. Les gens l'utilisent en remplacement de trajet en voiture, voire en remplacement d'une seconde voiture dans un certain nombre de foyers.
Ça, c'est ce que me notait François Portet, qui est un ethnologue qui travaille donc à Lyon. Et il disait que grâce au vélo, et notamment le vélo électrique, on pouvait échapper au couple infernal de la deuxième voiture. Alors bon, vous avez des écolos qui, eux, n'ont pas de voiture. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais d'échapper quand même déjà à la deuxième voiture, quand on sait qu'on est entre 6 000 et 7 000 euros par an sur une voiture à peu près en moyenne de frais, c'est quand même énorme, là.
Oui, c'est considérable, oui. C'est vraiment réinjecter du pouvoir d'achat de façon très concrète. Et on se sent beaucoup mieux parce qu'effectivement, malgré cette assistance, ça reste très bénéfique sur le plan activité physique. C'est-à-dire qu'avec cette assistance qui écrête un peu les points d'effort, les gens vont plus loin. Les gens doublent leur distance de moyenne de déplacement, notamment sur le domicile-travail. Ils font 7 km au lieu de 3,5 km. Donc il y a un bénéfice d'activité physique qui est tout à fait considérable.
Olivier Schneider, extrêmement important. Je rappelle, président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, la notion santé et vélo.
Il y a d'une part le manque d'activité physique et d'autre part le fait qu'on soit assis 8 heures par jour. Mmh. Et donc c'est très néfaste pour la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les études, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, montrent que 60 minutes d'activité par jour, y compris une activité physique modérée, comme marche un peu rapide, ou faire du vélo, y compris sur un vélo assistance électrique.
Et monter les escaliers.
Alors monter les escaliers, c'est un peu plus que modéré.
Modéré. Ah,
et c'est difficile de faire. Non, c'est difficile de faire 60 minutes de monter les escaliers.
Non, mais je l'ai pas fait.
Par jour.
Mais, je cumulais là.
Tout à fait. C'est mieux de faire 60 minutes d'activité modérée tous les jours que de faire 4 heures de sport le dimanche ou de se dire je monte les escaliers donc je suis un peu essoufflé, mais c'est un gros effort de
Et les résultats, Olivier Schneider, cancer du sein, colon, l'ostéoporose et maladies cardiovasculaires, tout ça, ça ferait moins 40%.
Moins 40%, voire plus. 40%, c'est vraiment le risque, la chute de risque vraiment établie. On a des indices qui montrent que c'est plus. Il y a aussi tout un tas d'autres bénéfices santé, y compris sur la santé mentale. On a besoin de bouger pour tout simplement
aller
bien.
Ça irait les drones,
Et donc, c'est vraiment une solution par rapport à cette crise.
Véronique Michaud, intéressons-nous à notre porte-monnaie et donc incitons les uns et les autres à aller de son domicile au travail à vélo. Ça veut dire que nous allons parler de l'indemnité kilométrique.
Alors, l'indemnité kilométrique a été mise en place dans, grâce à la loi transition énergétique de 2015. Le décret est paru en 2016, en début d'année 2016. Donc là, on a 2 ans de recul. Cette indemnité, elle est facultative. Le salarié peut recevoir 25 centimes du kilomètre avec un montant plafonné s'agissant pour lui de son impôt sur le revenu pour son employeur privé. Hein. Les employeurs publics actuellement ne le peuvent pas. Jusqu'à 200 euros par an, il est dispensé de cotisations sociales.
C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit 200 euros, l'employeur ne paye pas de cotisations sociales et la personne qui le touche ne la déclare pas sur ses revenus. Au-dessus de 200 euros, on doit le déclarer en plus sur ses revenus, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, et le caractère facultatif fait que elle a un certain succès. On fait connaître le bénéfice de l'usage du vélo pour l'employeur parce que aujourd'hui, on a là aussi, comme sur le plan santé, énormément d'études qui montrent les bénéfices en termes de compétitivité, de présence du salarié, de bonne santé, de bien-être, etc., qui sont tout à fait tangibles pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous demandons que cette indemnité kilométrique soit généralisée. Généralisée, c'est-à-dire obligatoire, et qu'elle soit généralisée à tous les employeurs, donc toutes les fonctions publiques, collectivités locales, État, fonctions publiques hospitalières.
Je vous propose un petit bol d'air. Là, on va quitter la ville. On va quitter la ville parce que nous avons donc évidemment ce vélo, donc transport, nous avons la compétition, et puis quand même, entre les deux, il y a toute la randonnée, il y a toute l'aventure qui existe. Et là, je vais vous emmener avec un homme dont le père était admirateur de Chateaubriand. Et donc, sans rien demander à sa naissance, on vous baptise le gamin François-René. Alors, c'est François-René Duchâble. François-René Duchâble, donc, il est pianiste, c'était un gars qui était absolument... Il est surdoué du piano, il a été repéré par Rubinstein et Karajan. Et il a un rapport à la nature qui s'est construit dès son enfance, entre autres grâce au vélo, dans sa maison savoyarde au bord du lac d'Annecy, à l'entrée du massif des Bauges. Et on va rencontrer cet homme, on s'était donné rendez-vous, non loin d'un petit col délicieux dans ce massif des Bauges, c'est le col de l'Échaud, on est à 900 mètres d'altitude, et avec François-René Duchâble, je vous convie, je vous emmène sur notre selle, oui, allez, suivez-nous, pour ce concerto pour dérailleurs, nature et piano. Votre vélo, quelle musique fait-il? Voilà.
Je ne sais pas la musique qu'il fait. Pas, il fait.
Pas mal. Je sais pas, il reste encore des roulements.
On essaye de parler en roulant? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une main qui est disponible pour le guidon, mais enfin on devrait y arriver. Oui. Et donc là, toujours sur cette route des Bauges.
Bellecombe et le col de l'Échaud.
Et c'est quand même bien parce que là c'est un petit serpentin de bitume qui est quand même assez discret dans la forêt. Ouais. Et alors ce qui est toujours très agréable, ce sont les variations de température. On passe sur une plaque de chaleur encore ici. Puis après on reprend 5 degrés de moins.
Oui, quand on aime le vélo, on sait souffrir. C'est vrai que quelquefois on souffre longtemps dans le froid, longtemps dans la pluie, longtemps au soleil. Les petites variations, c'est un peu comme des caresses sur la peau. C'est le soleil, tout à coup, vous caresse la peau et vous réchauffe. Surtout lorsqu'on va vers l'automne, vers l'hiver, une saison que je n'aime pas particulièrement. Et on essaie de reculer au maximum l'échéance. Et c'est de même que les premières caresses du soleil au printemps, c'est magnifique. Ah oui, alors là, voilà, on a l'odeur des résineux, le mélange feuillu-résineux. Et puis à l'automne, avec la rosée du matin ou l'humidité, à l'automne, il y a l'odeur des champignons.
Oui,
bien sûr. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement gastronome, il faut respecter. Mais les odeurs dans la nature, ça, j'y suis très sensible. Le même champignon sur un plat ne me passionne plus.
Oui.
Mais dans la forêt, pour moi, c'est magique. C'est une pièce de Schumann, de Chopin, de Brahms. C'est la danse des nains, c'est le tout le monde mystérieux de la forêt.
Oh, dis donc, alors là on a un panorama sur les Bauges. Le clac que vous entendez, ce sont les pédales automatiques. Vous avez quand même des pédales automatiques, vous aussi, François-René Duchamp.
Je m'y suis mis depuis 3 mois et je veux dire qu'on gagne,
c'est pas mal.
Paraît-il, 30 à 40%, mais en tout cas 20 et c'est extraordinaire. Hein.
Alors dans ce coin de Savoie, on peut se dire aussi que vous auriez peut-être aimé faire un autre métier, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être plus proche de la nature en définitive.
Oui, les métiers du bois en général. Ouais. Bûcheron, menuisier, ébéniste, artisan d'art sur le bois, il y en a quelques-uns ici dans les Bauges. Et les villages que nous allons voir sont très vivants grâce notamment à tout cet artisanat et grâce au tourisme familial, l'hiver le ski de fond, l'été la randonnée.
Et on est un peu sur une petite île calcaire, parce que derrière au loin, si on ne le voit pas, il y a donc Chambéry et Aix-les-Bains, de l'autre côté il y a Albertville, derrière nous il y a Annecy, et c'est ça, quoi, c'est un petit îlot, un petit isolat en fait, les Bauges.
Eh bien pour nous, Savoyards, le massif des Bauges est un peu le symbole des deux Savoies, c'est-à-dire de la seule Savoie, la Savoie éternelle, la Savoie historique, le duché de Savoie. Et ce sont des paysages très doux, il y a des sangliers, des chevreuils, il y a des chamois, bien sûr, beaucoup de temps. Je connais toutes les montagnes à pied, j'ai fait beaucoup de randonnées, mais c'est vraiment à vélo qu'on peut jouir le mieux de ces paysages, et puis on peut enchaîner des cols parce qu'ils ne sont pas très hauts, le col du Fresne, le col de Tamier. Le col du Plainpalais, et puis le Semnose juste à côté, où j'ai d'ailleurs fait même de la musique, des concertos de Bach dans la neige en mois de mars 2000.
Ah, dans la neige quand même.
Sur la neige, il y avait 4 pianos noirs, une image formidable, et on a eu 1200 personnes dans un théâtre de neige, construit pour la circonstance, un théâtre de plein air bien sûr, et les gens ont eu le courage de venir avec des anoraks, enfin un public en bleu, en rouge, en jaune, c'était la gaieté, et le Mont Blanc était magnifique.
Puis alors François-René, il y a aussi quand même les feuillus. Ça, c'est quand même drôlement agréable parce qu'il y a ce mélange de résineux, mais aussi de feuillus qui sont bien présents. C'est vrai que les montagnes où vous avez que des résineux sont souvent un peu sinistres.
Un peu austères, un peu comme la montagne du Jura, comme certaines montagnes aussi des Alpes, les Grandes Alpes, vers Chamonix et ailleurs. Dans les Alpes du Sud, on a la chance d'avoir les mélèzes. Alors les mélèzes donnent une connotation automnale un peu romantique. C'est vrai que je fréquente beaucoup le répertoire romantique allemand qui est très proche du monde de la forêt. Oui. Donc Brahms, Beethoven, Schubert, Schumann, le monde des fées, le monde des gnomes, le monde des lutins, des contes de fées. Et on retrouve un peu cette atmosphère ici. Je dois dire que je suis plus un homme du printemps qu'un homme de l'automne. Oui. Je trouve ça trop nostalgique, trop triste, mais c'est quand même merveilleux de voir cette symphonie avec les couleurs, les différents tons, les érables, les noyers. Parce qu'il faut bien dire que c'est assez arrosé.
Et il faut aussi rappeler qu'on est quand même dans un parc naturel régional. Ce qui veut dire que les gens sont bien conscients qu'il faut en même temps développer certainement une économie, mais pas faire n'importe quoi avec la nature. La première ressource, elle est là.
Ah oui, ils sont très très attentifs. Et d'ailleurs, certains concerts, même que j'ai donnés encore récemment dans des églises du village ici, se font en général au profit justement de cette économie rurale pour maintenir une activité culturelle, pour motiver les élus, pour maintenir quelque chose, éviter que trop de jeunes aient envie de partir à la ville. Tout ça, c'est très très vivant, c'est un petit paradis.
François-René Duchable pour ce concerto pour dérailleurs, nature et piano, ce qui nous fait quand même beaucoup de bien parce que c'est aussi un instrument évidemment de liberté, que ce soit en ville ou bien dehors, dans la campagne, que ça grimpe ou que ça grimpe pas, peu importe. Faites-vous du bien avec le vélo. Comment c'est venu en fait votre amour du vélo, Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est venu comment ?
Moi j'ai toujours fait du vélo, par contre quand il y a 16 ans je suis arrivé à Brest pour faire Télécom Bretagne, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup moins de transports en commun qu'en région parisienne, où j'habitais avant.
Même s'il y a un câble maintenant, qu'il y a un téléphérique.
Mais, enfin, mais à l'époque, il n'y avait ni le tramway, ni le téléphérique.
Et la route Siam ressemblait à la route Siam. Enfin,
et donc, quand pour aller à mon école, il y avait 3 bus le dimanche, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de meilleures solutions que le transport en commun, surtout ces jours-là. Et donc, j'ai acheté un vélo assistance électrique. Et j'ai trouvé ça génial, en ville, de pouvoir aller aussi facilement, aussi vite, puis avoir mon activité physique sans avoir à m'inscrire dans une salle de sport. Puis dans une espèce d'élan de générosité, comme ça, je me disais, mais faut dire à tout le monde, faites comme moi, regardez, c'est facile, ça va vite, c'est un effort, mais c'est mesuré, on n'est pas en sueur, on peut monter les côtes. Et donc j'ai rejoint Brest à pied à vélo, membre de la FUB, puis ensuite le CA de la FUB, etc. Voilà.
Et vous, Véronique Michaud ?
Ah, c'est venu tout petite par mon père, mais plutôt donc le vélo loisir, et puis j'habite à la campagne. Et le vélo mobilité, c'est vrai qu'il a fallu s'y remettre en fait, se dire que c'est possible, notamment en arrivant en région parisienne.
Oui.
Et alors aujourd'hui, moi le vélo assistance électrique, il me permet non pas comme Olivier de grimper des côtes, j'en ai pas tellement sur mon trajet, mais d'augmenter la portée du vélo, et je fais 14 km aller, 14 km le soir. Pas forcément tous les jours dans la période d'hiver, surtout quand il est aussi pluvieux que l'hiver qu'on vient de quitter, mais le plus possible. Et c'est vrai que la science électrique me permet de le faire. Un vélo standard rend l'exercice un peu plus sportif, quoi.
Alors, les Français d'ailleurs effectuent à peu près 90 km par an et par habitant à vélo. Alors plus avec l'avènement du vélo électrique, alors c'est 300 dans la plupart des pays du Nord et puis entre 800 et 1000 km au Danemark et aux Pays-Bas. Voilà, bon, bah c'est comme ça. On va continuer le voyage. D'ailleurs, on va en parler. On va parler aussi des villes étrangères. Alors, juste après qui ? Arcade Fire.
CO2, mon amour.
Mais vous étiez où aujourd'hui? Je vous ai pas vu. Continuez comme ça, mes petits gars, et c'est la clé sous la porte.
Demain, les gars, il s'agit de pousser à la bonne porte. On n'est pas venu là pour faire du tourisme. L'arrivée est à 3 km des usines Magicrème. Alors inutile de vous faire un dessin. Je veux un Magicrème dans tous les coups. Interdit de rouler avec les échappés. C'est tout pour Fabrice. On est bien d'accord? Bon, dans le final, vous le ramenez tous devant. Et là, je veux voir des déménageurs. Alors vous déblayez le terrain, et si un petit malin veut glisser entre les wagons, vous me l'envoyez dans le fossé.
Sur France Inter.
Voilà, et quand on est cycliste, si possible, quand même, on ne roule pas sur les trottoirs, on n'écrase pas les petites vieilles, on n'écrase pas les chiens, on n'écrase pas les enfants, ce serait formidable. Voilà, même si on les écrase pas, mais c'est vrai que de temps en temps, on va dire, hein, Véronique Michaud, que j'ai quelques incivilités quand même. Hein, c'est pas...
Bah, y en a chez les cyclistes, comme il y en a dans toutes les catégories d'usagers de la rue.
Oui.
Mais,
oui, oui.
Mais c'est vrai qu'il faut apprendre.
Il y en a jamais chez le conducteur de voiture. Jamais une incivilité, ça.
Non, jamais. Il est jamais garé sur des aménagements cyclables ou des trottoirs.
Des choses comme ça. Alors, non, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, parce que il y a aussi quand même une face noire, mais comme dès que l'on emprunte, de toute façon, une voirie, il y a 150 morts, donc tous les ans, 4% de tués, 5% de blessés.
Cette accidentalité, elle n'est pas corrélée à l'augmentation de l'usage. Les villes qui encouragent le déplacement à vélo et qui ont un usage en forte croissance, c'est Paris, c'est Grenoble, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est notamment toutes les grandes métropoles, n'ont pas une augmentation du nombre d'accidents en proportion. Donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le vélo par sa présence et la massification de son usage, est un élément d'apaisement, comme le disait Philippe Laurent, d'ambiance et d'apaisement, et donc de mise en sécurité de l'ensemble des usagers de la rue, des piétons, des personnes à mobilité réduite, et puis quelque part des deux-roues motorisées et des automobilistes qui profitent en fait de cette circulation apaisée, même s'ils ont l'impression qu'ils perdent une demi-minute.
Alors vous connaissez bien sûr Dick Hanegarn qui nous a chanté Bruxelles, autre ville cyclable, mais qui connaît évidemment bien les Pays-Bas. Alors Dick Hanegarn, que j'ai rencontré chez lui, nous avons les Hautes-Pyrénées qui ne sont pas loin, et voici ce qu'il nous racontait sur son pays.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vol.
Ma tante, qui pesait à peu près 110 kilos, quand je suis venu à Sertorenbos, c'est-à-dire à côté d'Eindhoven, à 75 ans, elle est venue me voir en vélo. Donc pour dire que le vélo
était courageux.
Sert l'hiver, l'été, sert pour les distances longues, sert pour les vacances, et pas avec des vélos électriques.
Vélo va, vélo vol, la voie va où vélo va.
Les papis, bien sûr, pas que les papis, mais ici on n'a pas les pelotons, la Hollande est un grand peloton en fait. Mais...
Et c'est quand même culturel aussi, enfin, c'est social et culturel.
C'est subculturel. En tout cas, les alternatifs, les provos et les kabouters, qui sont les, ça veut dire nains, jardins,
oui,
dans les années 60, ont commencé les plans vélo, oui, à Amsterdam. Et aujourd'hui, c'est la seule ville où ils se prennent toujours la tête pour essayer de savoir si c'est gratuit ou pas, si c'est vraiment anarchique ou si c'est commercial. En tout cas, dans toutes les grandes capitales du monde, aujourd'hui, on a un plan vélo.
Oui.
Hein, et ça a été initié par cette culture alternative. Si tous les Hollandais, au lieu d'aller à vélo, ils reprenaient une voiture, ce serait un embouteillage définitif.
Fini. Où va la vie, vélo va.
Et donc Dick Hanegarn permet d'ouvrir, on va dire, cette porte sur l'étranger, donc sur les autres. 3% de part modale, c'est quand même pas extraordinaire, on va dire, en France, ça c'est une moyenne. Alors on a des villes qui ont toujours été pionnières, par exemple la ville de Strasbourg, quand même qu'il faut citer, 15% de part modale avec le vélo dans la ville, 8% sur l'agglomération, on a Chambéry, on a Grenoble aussi, qui est quand même assez génial pour ça, Nantes, Rennes, alors ils ont des taux autour de 6-7%, bon, on a Paris, on a Lyon aussi qui avait lancé donc le vélo avant le Vélib, Lille, c'est bien, mais ça ne correspond pas du tout aux 40% qu'on peut trouver dans d'autres villes.
On est dans un rattrapage. Hein. On a beaucoup laissé filer la voiture dans nos espaces publics, dans nos villes. Donc ces politiques aujourd'hui qui sont engagées par les villes, qui sont citées là, qui sont des politiques ambitieuses, cohérentes, qui donnent des moyens, qui agissent sur tous les leviers, des services, des infras, etc., elles produisent des résultats, mais cet écart, qui est encore important avec d'autres villes étrangères, va pas être résorbé en un claquement de doigts. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut citer ces exemples. Et je pense par exemple à la ville de Copenhague, qui doit être autour de 40% de part modale, voilà, qui se fixe comme objectif aujourd'hui. Quand on est à 40%, nous on se dit qu'en France, finalement, on pourrait s'endormir sur nos lauriers et on serait très très content. Eh bien, à Copenhague, on vise 50%, c'est-à-dire qu'on vise un déplacement sur deux, un déplacement, quel que soit le mode, sur deux à vélo. Et quand on visite, quand on fait du vélo, quand on fréquente Copenhague, on voit que c'est en train de se faire. Donc, qu'est-ce qu'une ville où un déplacement sur deux est fait à vélo? C'est pas la même ville, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même bruit, c'est pas le même mode de relation à la ville, de proximité, de sensations aussi, comme on l'évoquait avec un exemple plutôt de vélo dans la nature. Mais c'est une autre ville, c'est une autre proximité. Ça impacte beaucoup le commerce local, par exemple. Donc aujourd'hui, cet exemple de Copenhague, on peut le citer dans nos villes, qu'elles soient avec une part modale à un ou deux chiffres, c'est une trajectoire, c'est-à-dire qu'on peut aller vers ça.
Et ça a même été d'ailleurs aussi une alternative, par exemple à Bordeaux, au moment donc où Alain Juppé donc lançait trois lignes de tramway en même temps, où les bus étaient quand même aussi assez perturbés, et donc l'alternative, ça avait été le vélo, et ça a drôlement pris. Alors évidemment, c'est une ville qui est plate, mais ça a drôlement pris aussi pour cela, donc ça veut dire que ça fait partie des politiques véritablement de la ville.
Oui, tout à fait. C'est une l'alternative. On vous propose une solution vélo pendant la période des travaux qu'avait initié Bordeaux en 2002-2003. Mmh. Est très intéressante par la démarche qui est vraiment concrète, efficace, qui dit on vous raconte pas que la période des travaux va être quelque chose d'affilé facile,
sûr, oui,
mais
oui.
Voilà, on vous propose une solution. Et ce qui est intéressant, c'est que dès cette époque, c'est quand même aujourd'hui un peu loin de nous, on a vu le succès immédiat, c'est-à-dire que la flotte de vélos qui est proposée aux Bordelais, elle est immédiatement utilisée par les Bordelais qu'on redemande. On est obligé d'augmenter le service. Et ce service de prêt de vélo existe toujours aujourd'hui, avec une durée limitée dans le temps, et ça permet à des habitants, des étudiants, de se déplacer, d'essayer cette solution, voire de s'équiper après.
Alors on a des tas de villes, hein, Fribourg en Brisgau, Münster, on peut aller en Suisse aussi, enfin, Olivier.
Moi je pense surtout à un message d'espoir par rapport aux villes en France. Nous, on a pu classer avec le baromètre, donc les 113 000 réponses, 316 villes. Donc 316 villes où on a eu plus de 50 réponses. Et donc sur ces 316 villes, on n'en a que 21 qui ont eu la moyenne. Par contre, parmi toutes ces villes-là, je pense que ça a eu un peu l'effet d'un électrochoc pour un certain nombre d'entre elles. Et dans le cadre du soutien du plan national vélo et de son financement, on a reçu le soutien, que ce soit de grands-mères comme Juppé, Hidalgo, Kimfeld, Roland Ries de Strasbourg, etc., mais aussi des maires ruraux ou de villes moyennes où aujourd'hui, paradoxalement, alors que les distances sont plus courtes, c'est plus difficile de se déplacer à vélo, tout simplement parce que la voiture est reine. Et donc ce soutien des villes, que ce soit celle de l'Association des maires de France ou de l'Association des maires ruraux de France, montre bien qu'il y a une appétence pour une politique coordonnée par l'État.
Et récemment, donc la fin avril, il y a eu 207 députés qui ont donc signé aussi donc un manifeste pour dire « on veut encore plus de vélos, donc aidez-nous ».
Ce qui est formidable, c'est cet alignement des positions entre des acteurs comme les collectivités, donc le Club des villes et territoires cyclables, les usagers comme la FUB, les industriels du vélo, et donc ces 207 députés. Et encore plein de députés me croisent et me disent « Ah, mais j'étais pas au courant, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il y avait dans la tribune, j'aurais signé. » C'est juste que le calendrier était débordé. Donc on a les élus locaux, les citoyens, les associations, tout le monde qui demande qu'on ait ce plan vélo. On est à 2,7% de part modale avec des objectifs très ambitieux par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport aux objectifs COP21 de tripler, quadrupler la part modale. Bah, il faut passer du dire au faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut juste que sur le dernier moment, on ne subisse pas un arbitrage défavorable sur le financement de ce plan.
Et là, c'est pas de la tarte, on va voir ça du côté de Bercy. On va faire toujours un petit tour en ville, et là, on va s'intéresser à des entrepreneurs à vélo. Bonjour Arthur Guilherme.
Bonjour Denis.
Alors Arthur, vous êtes à la tête de Cyclic, donc une petite entreprise que vous avez créée, et alors vous fédérez donc ces entrepreneurs à vélo, c'est-à-dire aussi bien des plombiers, des ostéopathes, des bricoleurs, des jardiniers, des informaticiens. Racontez-nous.
Tout à fait. En fait, Cyclic, c'est une communauté de vélos entrepreneurs et en fait, on fédère les gens qui ont choisi d'entreprendre à vélo dans les villes. Donc voilà, c'est vraiment tout un avantage d'entreprendre à vélo. Dans les villes, on est plus réactif, on a beaucoup moins de charges, on n'a pas de frais de stationnement, de contravention. Donc nous, on fait rencontrer ces gens-là, on les fait échanger sur des problématiques communes et on leur offre plein de visibilité auprès du grand public pour qu'ils se fassent connaître dans les grandes villes.
Là, vous en avez une centaine. Alors, il ne s'agit pas des coursiers à vélo que l'on voit, d'ailleurs, qui sont très très mal payés, qui risquent leur peau d'ailleurs aussi, qui sont payés à la course, donc ce n'est pas très simple pour eux. Mais donc là, il s'agit aussi de gens qui se disent peut-être aussi même que dans mon métier, ce serait une valeur ajoutée que de venir à vélo chez le particulier.
Exactement, c'est vraiment... Ces gens-là ont fait le choix du vélo donc par plusieurs convictions, soit souvent c'est des convictions écologiques, mais aussi c'est vraiment un réel atout de se déplacer en vélo. On est visible quand on passe dans les grandes rues des agglomérations. Il y a un affichage qui est possible sur les biporteurs, sur les triporteurs de ces gens-là. Et puis voilà, il y a une réelle relation de sympathie, une relation de proximité qui peut se créer grâce au vélo, grâce aux valeurs que véhicule le vélo auprès de ces gens-là.
Bon, et ça marche. Donc ça s'appelle Cyclic, donc cyclic.fr. Et donc bah, vous allez faire des petits, hein. Ça a commencé à Toulouse et maintenant vous touchez quelle autre ville ?
Exactement, ça a commencé à Toulouse et maintenant on touche aussi les villes de Lyon, de Bordeaux, de Paris. Prochainement les villes de Nantes et de Grenoble, donc voilà... Toutes les initiatives à vélo sont les bienvenues. On essaie vraiment de les recenser dans un premier temps et puis de les accélérer dans un second temps.
Alors, je ne voudrais pas terminer cette émission sans parler quand même de la ville de Saint-Étienne, ville de design, et dans son musée d'art et d'industrie. Eh bien, il y a une très bonne exposition qui s'appelle Urbanus Cyclus, le vélo dans la ville, qui est plus d'ailleurs une exposition, on va dire, sociétale qu'historique, hein, donc qui met vraiment en avant les usages actuels. Bon, là, le seul léger souci, Véronique Michaud, c'est qu'ils ne sont pas dans le club des villes cyclables. Ils ne sont pas forcément très très bon pour circuler à vélo dans Saint-Étienne, mais en tout cas ils ont un vrai fond et une vraie légitimité historique sur le vélo, quoi.
Oui, ils se sont plus, ils vont probablement revenir parce qu'ils sont comme ailleurs. Ils ont besoin du réseau et de l'échange d'expériences.
Une petite conclusion.
Moi, je crois que effectivement, comme disait Olivier Schneider, l'alignement des planètes, il est extrêmement important et il faut que l'État vole au secours du succès. L'acceptabilité est importante, l'impatience, hein, on disait un besoin de vélo, un appétit de vélo, il y a même une impatience de vélo, je pense, du côté des usagers actuels et de tous ceux qui veulent s'y mettre et qui rencontrent des obstacles. Donc à l'État de jouer aussi son rôle de coordination et puis de prendre sa part aussi du financement, c'est nécessaire pour accélérer.
1,2 personnes dans les voitures aujourd'hui, domicile, travail, parfois 1,3 mais pas plus. Petite conclusion également, Olivier Schneider.
On rentre dans la phase critique des arbitrages. Je pense qu'on a commencé en citant la ministre en charge des transports. Je pense qu'elle est convaincue du vélo. Et donc, j'appelle le Premier ministre à la suivre sur les arbitrages financiers, notamment le fonds vélo de 200 millions d'euros par an. Pour le vélo, c'est simple. Il faut dépenser des millions aujourd'hui, mais c'est pour économiser des milliards demain. Et donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette opportunité.
Merci à vous deux. Donc, vélo anagramme de love, c'est à vous de voir. Donc, évidemment, on parlait bien de vélo en ville, périurbain, et pas forcément dans les campagnes où là, c'est un peu plus compliqué. Merci donc Anne-Laure Cochet, Antoine Teboul à la technique, Marion Philippe, Alice Michaud, Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, Muriel Pérez qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Semaine prochaine, je vais vous emmener dans le Doubs. On va être en Franche-Comté, on va aller à Arc-et-Senans et rejoindre un créateur assez génial qui s'appelle Luc Schuiten, qui a une très belle exposition, qui a une vraie sensibilité à l'environnement. Rediffusion de CO2 de mon amour entre 5h et 6h du matin, donc cette nuit. Le podcast, bien évidemment, l'Atu du Mont Petit Loup à 19h54, ce sera demain. Et puis je vous signale que si vous regardez à 20h Ushuaïa Télé, dans Ushuaïa, le MAG, j'ai le plaisir d'animer avec Frédéric Dan et avec Cyril Ariel, eh ben on reçoit Jean-Marc Barre. Ça vous dit quelque chose? Oui, on l'a pas fait en apnée, hein, donc l'émission, pas du tout. Mais Jean-Marc Barre, donc du Grand Bleu, qui viendra donc raconter aussi sa sensibilité à l'environnement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. Ben, je crois que vous savez à peu près tout, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, donc joie et soleil sur vous.